Bonjour à tous, donc très heureux de vous accueillir pour cette conférence sur le thème de l'agent augmenté, l'agent 5.0 en immobilier d'entreprise, comment capter des mandats et les sortir, puisque c'est bien là le métier des commercialisateurs, donc en immobilier professionnel. Et aujourd'hui, très heureuse d'accueillir Marie-Laure de Souza, qui est chez Jones Lang et qui va se présenter, qui dirige l'agence, et Thomas Puig. Marie-Laure, quelques mots sur JLL et sur comment se passe l'activité en ce moment ?
Bien, bonjour Sophie, merci beaucoup de m'accueillir pour discuter effectivement de l'agent 5.0. Donc moi je travaille effectivement chez Jones Lang LaSalle, JLL, où je suis donc directrice du Leasing Markets Advisory. Donc on s'occupe de l'ensemble des transactions, l'ensemble du conseil pour les entreprises, autant en bureau, en activité, en logistique et en retail. Donc nous avons une vision assez globale et nous avons essayé effectivement de faire bouger l'ensemble des lignes de cet agent 5.0 sur ces classes d'activités. Et on a beaucoup appris de cette crise. Donc comment ça va en ce moment ? Au mieux qu'on peut. Mais aujourd'hui, finalement, on n'a jamais autant parlé de bureaux que nous en parlons aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne chose et on va le développer ensemble.
Et c'est tant mieux. Et Thomas Puig, qui est le directeur commercial de Telescope, une société très innovante et très active dans l'immobilier d'entreprise. Thomas, quelques mots.
Très rapidement, donc Thomas Puig, effectivement, directeur commercial de Telescope. Nous, on est une carte...
Il faut te rapprocher du micro,
Thomas. On est une carte de prospection immobilière qui existe depuis quelques temps. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner une grande majorité des professionnels de l'immobilier en France, que ce soit effectivement dans le cadre de bureaux, mais aussi dans d'autres activités. Et voilà, pour la faire assez rapide et assez simple.
Super. Donc, on a ensemble 35 à 40 minutes. Et ce qu'on vous propose, c'est d'être hyper factuel, d'essayer de vous donner des infos, des trucs et des astuces pour justement comprendre les outils digitaux au service des agents en immobilier d'entreprise aujourd'hui. Et on vous laisse à tous poser les questions que vous souhaitez. Donc, il y a un chat et elles apparaissent devant moi et je les donnerai à nos intervenants. Donc, on va commencer par ce qui est le moins évident. Donc, peut-être un mot, moi je vais peut-être me présenter quand même. Donc je m'appelle Sophie Desmazières et je suis donc la présidente fondatrice, cofondatrice en fait de Bureaux Locaux. On va vous mettre la slide sous les yeux de ce qu'est Bureaux Locaux. Beaucoup connaissent, mais Bureaux Locaux, c'est en fait la plateforme de commercialisation qui présente l'ensemble de l'offre immobilière pour les entreprises, du bureau, du commerce et de l'entrepôt. Et je ne sais pas si on peut la mettre, la slide. C'était pour que vous puissiez voir. Voilà. Ah, bah super. Voilà, donc Bureaux Locaux, c'est une plateforme spécialisée. On ne fait que ça. On rassemble en fait l'ensemble de l'offre à vendre, à louer, de bureaux, de commerce et d'entrepôts partout en France. Donc, on a une exhaustivité pas complète, je mentirais en disant ça, mais vous avez 50 000 offres sur Bureaux Locaux actuellement dans toute la France, et vous avez donc la possibilité sur chacune de ces offres d'avoir des informations contextuelles comme les prix du marché que nous calculons avec nos algorithmes, l'ensemble des accès transport par exemple, avec une précision parfaite puisqu'on travaille avec Google. Et Bureaux Locaux, ce n'est pas seulement ça, ce que vous connaissez de Bureaux Locaux, c'est surtout cette plateforme de visibilité de l'offre, mais c'est aussi un lieu où on peut trouver le meilleur agent immobilier pour chaque projet immobilier. On vous a entouré sur la page, donc deux onglets particuliers, l'un qui s'appelle Estimer, et je vous en parlerai largement tout à l'heure, qui est un outil de préestimation en ligne et qui pour les agents immobiliers est un outil de captation de mandats formidable. Donc ça s'appelle, donc c'est entre nous un truc classique dans ce métier de l'immobilier. Vous avez dans l'immobilier résidentiel un modèle qui s'appelle Meilleur Agent, qui fait ça pour le résidentiel. Nous avons développé, nous, un outil de préestimation qui permet d'avoir une fourchette de prix et qui permet d'identifier parallèlement à la fourchette de prix très large les agents avec lesquels on va affiner cette fourchette de prix. Puisque notre métier à nous, c'est sûrement pas de commercialiser, mais c'est d'aider nos partenaires, qui sont les agents immobiliers spécialisés en immobilier d'entreprise, tous ceux qui ont de l'offre, à commercialiser. Donc, outil d'estimation et puis un outil pour trouver une agence sur Bureaux Locaux. À peu près 10% des leads sont des leads aujourd'hui qui émanent, qui sont des leads corporate, des leads de propriétaires, de gens qui ne viennent pas pour voir des annonces, mais qui viennent pour voir le profil des agents du secteur et de leur région. Petite présentation faite, commençons d'abord sur la captation de lead. Alors, est-ce qu'on peut, puisque c'est quand même cette partie du métier qui est aujourd'hui la moins digitalisée, Marie-Laure, je vous pose la question, est-ce qu'on peut capter des leads avec le digital ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le digital ?
Alors Sophie, on peut évidemment capter des leads avec le digital et encore plus aujourd'hui qu'hier. J'entends par là que sur l'ensemble des thématiques que nous allons aborder ce matin, l'ensemble des éléments liés à une commercialisation, à une captation de mandats, à une captation de clients ont énormément évolué depuis quelques années, mais ont surtout évolué avec la crise que nous connaissons. C'est-à-dire que la situation sanitaire a fait qu'on a dû être beaucoup plus proche de nos clients de façon différente et évidemment aujourd'hui, le digital est une part très importante du travail que nous réalisons, de par la conjoncture, mais aussi de par des habitudes de consommation qui ont beaucoup changé et qui se sont accélérées. Donc l'ensemble des tendances que nous connaissions jusqu'à présent ont accéléré de façon exponentielle depuis début janvier 2020. Et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, la part du web et la part de la digitalisation nous amènent presque plus de 60% des leads que nous pouvons avoir sur l'ensemble des classes d'actifs, sur l'ensemble des géographies. Après, il y a peut-être une petite distinction dans les tailles des projets que les entreprises vont regarder sur le web. Plus l'entreprise est grande, plus elle est structurée, plus elle a d'autres canaux de communication et de compréhension du marché. Mais même les grandes entreprises commencent par regarder sur le web avant de prendre quelques décisions que ce soit. Donc on a tous connu les panneaux, on a, pour les plus anciens d'entre nous, connu les envois de captation de leads par fax presque, mais aujourd'hui le panneau et l'ensemble des courriers et autres typologies de prospection qui nous permettaient de capter des leads est en train de s'atténuer particulièrement au profit du digital dans la captation de leads par le biais des plateformes, mais aussi par le biais de prospection beaucoup plus ciblée, beaucoup plus prédictive. On peut jouer justement avec le digital et donc tout le monde est en train de s'approprier l'ensemble de ces sujets et on peut aussi capter des leads par de la communication sur les réseaux sociaux qui oriente après vers nos différentes plateformes. En tout cas, les sources sont démultipliées et aujourd'hui, on peut parler de multicanal pour savoir justement comment arrivent nos leads.
Justement, une question sur... Donc, vous dites 60% vient du digital, les autres 40%, ça c'est quoi?
Alors, il y a toujours du bouche à oreille, ouais, et ça c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est que l'humain est encore très important, et même si nos relations sociales du quotidien se sont un peu amoindries, malgré tout, le bouche à oreille joue toujours. Nous avons aussi beaucoup de nos clients qui font appel à nous par biais d'appels d'offres, donc là aussi c'est une mutation de notre métier qu'on a connue depuis quelques années avec une professionnalisation générale de nos métiers. Les panneaux servent encore un petit peu toujours, la proximité reste une règle en immobilier d'entreprise. On fait tous encore un peu l'escargot autour des différents immeubles que nous avons à commercialiser pour les leads. Mais aujourd'hui, le monde a changé, le monde a évolué. Et c'est à toute heure du jour et de la nuit, c'est tous les jours de la semaine que justement nos prospects peuvent prendre contact avec nous grâce au digital.
Justement, sur la captation de leads, nous, dans notre métier à nous, des plateformes, on sait que sur des preneurs et des acheteurs, c'est une règle aujourd'hui, voilà. Mais sur les mandats propriétaires, c'est moins évident. Est-ce que vous captez des mandats propriétaires?
Alors, nous avons... oui, tout à fait. La réponse est oui, Sophie. Nous avons deux types après de propriétaires, des investisseurs institutionnels avec justement un mode de fonctionnement et de communication différent. Par contre, ce que le digital nous a ouvert, c'est le côté exponentiel du nombre de propriétaires en France, de family office, de propriétaires privés. Et à moins d'avoir vraiment une communication très forte auprès d'eux, le digital ouvre une vitrine que nous n'avions pas jusqu'à présent et leur permet de prendre contact avec les professionnels dont ils ont besoin. Et ça, c'est une vraie avancée de nos métiers. Donc, c'est la fameuse long tail dont on parle dans le monde du digital. Mais effectivement, c'est capter une audience beaucoup plus forte, beaucoup plus étendue, avec des gens que nous n'aurions jamais approchés jusque-là.
Effectivement, cette fameuse long tail et ces outils en fait, de détection d'opportunités, j'aimerais bien qu'on en parle donc avec Thomas, qui va, et on va mettre la slide de Thomas, qui a une carte de prospection qui est incroyable, vraiment. On est partenaire avec Thomas et on trouve que ce que fait Télescope est tout à fait intéressant. Et alors justement, comment ça marche?
Alors c'est une... Déjà peut-être pour rebondir sur ce que disait Marie-Laure, effectivement, ce qui est incroyable avec l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est assez multiple. Il y a un nombre de professionnels assez large, des métiers très différents, et souvent, les interconnexions entre les différents métiers, ce qui est super, super intéressant. Et la difficulté, lorsqu'il y a un certain nombre d'interconnexions, c'est qu'il faut des outils qui soient un petit peu capables de répondre à toutes les attentes. Donc ça, c'est la première chose. Donc, Télescope, qu'est-ce que c'est ? De manière assez simple, c'est une carte de prospection immobilière. Donc, on essaye, nous, de notre côté, de géolocaliser un certain nombre d'informations qui soit pertinente pour les professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information ? Bah, de manière assez simple, on va avoir notamment les propriétaires de biens immobiliers, personnes morales, bien entendu, puisque les personnes physiques, ce sont des données qui aujourd'hui sont sensibles et qui ne sont pas vendues par l'État. Et ce qui est super intéressant, c'est que aujourd'hui, au-delà d'avoir ces données, ces coordonnées, on est aussi capable d'essayer d'arriver vers de la prédiction de vente. Donc notre objectif chez Télescope, c'est pas uniquement d'avoir de la data et de l'afficher sur une carte, c'est d'essayer de faciliter le travail des commerciaux, des professionnels de l'immobilier en leur disant bah, est-ce que ces personnes demain vont vendre ? Est-ce que ces personnes demain vont... cette parcelle ou ce bien va être vendu dans les mois à venir ? Est-ce que cette société va déménager ? Ça, c'est des choses, effectivement, qu'on arrive, effectivement, de plus en plus à faire avec, effectivement, l'agrégation de multiples data, pas uniquement les propriétaires.
Alors, justement, comment j'arrive à prédire le changement ? Comment j'arrive à prédire qu'une boîte va déménager, que peut-être elle va vendre ? C'est quoi les trucs ?
Souvent, alors il y a des choses qui vont être assez simples. Sur, par exemple, si on prend l'exemple du déménagement, ça va être des données assez simples à récupérer. C'est la taille des locaux de la société, ça va être l'augmentation ou la baisse de son chiffre d'affaires, et ça va être le nombre de personnes travaillant effectivement dans cette société. Alors, période Covid, peut-être un petit peu plus difficile d'avoir des algorithmes qui prédisent ce qui se passe, mais en tout cas, on arrive en tout cas de plus en plus à dire, OK, par rapport à ces différents éléments, par rapport à cette situation à l'instant T de cette société, dans les 6 mois, 1 an, va déménager. Donc ça, on arrive à le faire effectivement pour les bureaux, et on essaye de plus en plus de le faire dans d'autres secteurs, comme par exemple l'habitation. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui, effectivement, sur lesquelles on travaille beaucoup.
Vous disiez, quand on préparait cette conférence, que par exemple, c'est un peu triste, mais c'est vrai que vous arrivez à savoir quand, par exemple, le dirigeant d'une entreprise est décédé. Mmh. Il y a en général derrière un mouvement. On peut l'imaginer, mais est-ce que vous arrivez à...
Absolument. Alors, en fait, on
a validé que cette information est juste. Un, à la trouver, et deux,
alors, c'est, à la traiter. C'est toute la difficulté en fait des datas, c'est que elles finissent un jour ou l'autre par devenir effectivement open source. Et ce qui est ultra pertinent, c'est d'enrichir les données. C'est-à-dire qu'on achète des données, on les récupère, mais derrière, on essaie d'en faire quelque chose qui soit ultra pertinent. Sur effectivement ce que nous on appelle les événements de vie. On essaie d'être un petit peu plus gai. Effectivement, les décès font partie de ces choses de la vie qui vont générer des transactions. Et sur Télescope, on est capable effectivement de géolocaliser effectivement les personnes décédées, alors pas toutes, malheureusement. Mais derrière, on le fait bien sûr dans le respect de la RGPD. Mais en gros, on va croiser ces données-là avec les personnes morales et donc les propriétaires. Donc on est capable justement de faire du ciblage de personnes qui sont décédés et qui avaient des biens immobiliers. On peut même effectivement aller plus loin et faire de la prospection par patrimoine consolidé d'un dirigeant. Donc de dire, je veux une personne qui avait X locaux, qui avait tant de mètres carrés en logement, en bureau ou autre. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui sont super intéressantes.
Bravo, bravo. Et c'est sûr que ce sont des... Ça existe depuis combien de temps, Télescope ?
Télescope, ça existe depuis 5 ans. Après, il y a eu 2-3 ans de développement. Donc c'est quand même un gros, gros, gros travail. Après, on est une société qui marche très, très fort. On a beaucoup de chance. Le Covid, on parlera effectivement peut-être un peu plus de ça tout à l'heure, mais le Covid a plutôt été... Alors, pas une bénédiction, parce que c'est pas le terme. Mais on va dire que, étant donné qu'on facilite la prospection en ligne... et que voilà, les gens ont moins besoin de se bouger effectivement grâce à nous. Effectivement, nous, pour le coup, on a eu énormément d'augmentation de notre chiffre d'affaires depuis un an.
C'est sûr que les crises en fait amènent les grandes transformations, et dans le digital, Qu'est-ce que c'est vrai? Moi, je voulais en profiter justement sur la captation de mandat pour vous faire une petite démonstration, donc une petite vidéo qu'on va lancer, puisque l'immobilier, vous le savez sûrement, mais le premier usage du web, c'est la recherche immobilière, que ce soit pour les vacances, hein, si je veux réserver un Airbnb. Hop, la démonstration est lancée, donc je vous explique. Mais là, vous avez une démonstration de ce que nous avons développé, qui est une préestimation en ligne. Donc là, je veux estimer les loyers, le loyer, le prix de vente de bureaux. Je me suis mis à la Pardieu, je prends la surface, je qualifie. Tout ça, c'est fait avec nos algorithmes et nos bases. Nous, on qualifie donc l'immeuble. Donc, quand j'ai en fait donné toutes les informations, on me demande si je suis un vendeur, un acheteur, un professionnel et si je veux être mise en relation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On me donne une fourchette de prix qui est en fait très large. Et cette fourchette de prix, elle a surtout comme intérêt, et c'est là-dessus que je voulais insister, de matcher, de vous mettre en relation et de montrer à celui qui a fait cette demande qui sont les acteurs, en fait, qui ont commercialisé des biens similaires. On va rester dessus, voilà. Là, vous voyez, donc nous faisons le matching avec ce que nous appelons un peu une trapalite, cette préestimation, et on dit à l'utilisateur, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez affiner votre projet, et surtout l'estimation, voilà les agents immobiliers qui sont aujourd'hui à même de prendre en charge votre projet immobilier. Parce que, et comment on fait ce matching? Donc, c'est assez simple, c'est en fait, on regarde dans nos bases les agents immobiliers. Aujourd'hui, on en a 1200 qui sont référencés chez Bureaux Locaux, qui ont soit des biens en portefeuille similaire, soit des transactions similaires récentes. Et avec l'ensemble de ces données, et ben on fait le matching, parce qu'évidemment, si vous voulez vendre 200 mètres carrés de bureaux à la Pardieu, vous avez intérêt à vous mettre en relation avec quelqu'un qui commercialise un bien similaire ou qui a récemment fait une transaction récente. Et c'est trapalide. Aujourd'hui, ça démarre, donc, mais on transmet. Aujourd'hui, on fait à peu près 2000 estimations par mois. On en faisait zéro il y a 18 mois. Donc, on a démarré réellement il y a un an. Donc, ça démarre quand même très fort. Et oui, on peut capter des leads, on peut capter des mandats. Et c'était juste pour vous montrer que le digital, que ce soit avec de la data ou avec des petits algorithmes qui permettent de faire du matching, on peut tirer, en fait, du digital des informations tout à fait nouvelles au bénéfice de ceux qui sont présents sur les plateformes et au bénéfice de ceux qui sont clients, puisque les clients de Télescope, c'est principalement les commercialisateurs. Mmh. Oui, principalement. Donc, voilà sur la captation de mandat ce qu'on voulait vous dire. On répondra à toutes vos questions. Je voulais qu'on parle maintenant du cœur de métier, puisque bien sûr, je rentre des mandats, ensuite je les commercialise, et qu'avec Marie-Laure, on vous fasse un peu peut-être le parcours, en fait, le parcours d'un client type. Ici, on peut se mettre cette page à l'écran qui s'appelle l'agent 5.0, et nous allons passer du temps pour vous la commenter. Quel est le parcours, en fait, classique, en fait, d'un client? Je laisse Marie-Laure nous expliquer tout ça. À l'heure du digital, comment ça se passe?
Alors, que nous ayons pris contact avec notre futur mandant par le biais du digital ou par le biais d'autres axes, comme on l'a évoqué, une fois que nous avons notre mandat, c'est fantastique, comment faisons-nous? Donc, c'est un parcours que nous avions déjà mis en place chez JLL avant notre phase Covid, mais qui s'est particulièrement accéléré. On le voit dans les chiffres, on le voit dans l'activité quotidienne. Donc aujourd'hui, nous avons essayé justement de créer un parcours 100% digital, même si je tiens à dire, et c'est très important, que nous aurons toujours besoin d'humains, nous aurons toujours besoin d'agents qui justement prendront les clients par la main et les écouteront avant de leur proposer quelque chose. Donc l'humain est très important, mais les outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui sont les outils de demain, qui effectivement permettent une certaine distanciation, une certaine aussi sécurité. On parlait tout à l'heure du RGPD, Thomas a évoqué le RGPD, ça c'est aussi une de nos révolutions dans nos métiers aujourd'hui, et le digital est la partie un petit peu délicate des choses, puisqu'on doit s'habituer à être maintenant dans des nouvelles règles liées justement à la conservation de nos informations, mais aussi à ce que nous en faisons. Donc ça a accéléré aussi le côté très éthique et responsable de nos métiers, et puis c'est un petit côté vert aussi, puisque lorsque nous avons avons un parcours 100% digital, eh ben, on se déplace peut-être un petit peu moins, on consomme un petit peu moins de CO2, on coupe un peu moins d'arbres pour le papier, et donc ça fait partie aussi des évolutions de notre société. Donc ce parcours digital commence effectivement par la captation de notre mandat. Donc aujourd'hui, on signe des mandats de façon électronique, ça va vite, c'est sécurisé, on n'a plus besoin d'attendre un courrier qu'on a perdu, et on sait tous, professionnels, que ça nous est tous arrivé. Une fois que nous avons donc ce mandat et que nous pouvons communiquer sur nos différentes offres, là, il y a beaucoup de possibilités digitales de pouvoir le faire. Donc évidemment, travailler sur des plateformes d'agrégation comme Bureaux Locaux qui nous permet donc d'avoir l'ensemble de nos offres, d'avoir aussi nos propres sites internet parfois, puisqu'on a une vitrine sur laquelle on a nos propres offres. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on est en multicanal. Il faut offrir aux consommateurs beaucoup de sources différentes pour qu'il n'ait pas l'impression d'avoir une seule source qui soit la vérité. Et d'autant plus, l'information est différente. Parfois, l'information n'est pas tout à fait la même. Donc, ça permet une meilleure qualité et un professionnalisme dans notre approche que d'avoir justement des plateformes sur lesquelles les informations doivent toutes être identiques. Et donc, travailler justement sur ce contenu dans le sens de l'investisseur qui justement nous a confié son mandat, mais aussi de celui qui va prendre à bail et qui a besoin d'être sécurisé sur beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Donc ça, c'est très important. Comme je vous le disais aussi, quand on parle de multicanal, il faut rajouter l'ensemble des réseaux sociaux qui permettent justement de mettre en avant des offres, pas forcément uniquement sur « j'ai quelques mètres carrés à tel endroit », mais, chère entreprise, vous avez peut-être une stratégie qui fait que vous avez besoin de plus d'informations, et les réseaux sociaux nous permettent aussi de capter de l'audience pour expliquer des choses, faire de la pédagogie et après aller vers l'offre immobilière. Donc ça, c'est très important. On a tous organisé des webinaires. Vous faites partie aujourd'hui d'un webinaire. Vous avez donc des informations qui vous permettent de prendre un choix beaucoup plus éclairé. Et cela nous aide donc à avoir beaucoup plus de visibilité sur l'ensemble des offres disponibles. On ne parlait quasiment que du PC et un peu de la tablette. Le téléphone aujourd'hui est aussi devenu un canal complètement différent pour parler avec notre audience de façon différente. Donc c'est du multicanal et en même temps sur des outils complètement différents. Une fois qu'on a capté un lead, justement, il faut prendre le client par la main et l'aider. Et là, on a tous des situations différentes. Donc, soit on l'a trouvé par le biais, justement, de télescope, du scoring prédictif qui est hyper intéressant, et on n'est qu'au début de l'aventure, je pense, puisqu'effectivement, plus on rajoute des sources différentes, plus on arrive à affiner la façon dont on va aller chercher une audience. Donc soit l'audience est intéressée par nos contenus, soit on va chercher de l'audience. Donc là, les agents savent bien qu'on peut attendre un appel panneau dans l'ancienne vie ou un lead venant du web, mais on peut aussi aller chercher justement ces demandes et, comme le disait très bien Thomas, aller chercher une audience qui sera intéressée par l'information qu'on lui donne. Quand on parlait du RGPD, c'est exactement ça. On arrête d'envoyer des courriers à tout le monde sans savoir si ça les intéresse. Aujourd'hui, le consommateur, même professionnel, est protégé et c'est une bonne chose pour la professionnalisation de nos métiers. Ça améliore notre qualité et aussi notre éthique. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a eu plein d'autres choses. Je vous parlais de nos fameux panneaux, mais les panneaux, aujourd'hui, on peut y mettre un QR code. Ouais. Le QR code peut aussi être lié justement à du digital, aller sur nos plateformes et aller justement attirer quelqu'un de différent qui ne se sent pas agressé par une information qu'on lui a poussée forcément sur l'ensemble des sites. Donc tout ça, c'est un joli monde qui fonctionne très bien ensemble à partir du moment où l'humain est là pour accompagner et pas uniquement pour pousser de l'information. Donc à partir du moment...
Marie-Laure, juste une question. Vous êtes connue, JLL est connue pour être très, très fort en digital. Ça représente aujourd'hui combien de personnes, l'équipe digitale? Ça, pour faire tout ça, il faut forcément du monde. Vous avez modifié la physionomie de vos équipes pour avoir et vous avez des compétences digitales excessivement forte, importante, je pense que c'est important de le dire à tout le monde parce que ça c'est formidable, hein, donc, mais pour arriver à faire ça, faut être quand même, c'est des investissements fabuleux, quoi.
Voilà, ce sont de gros investissements. En même temps, nous sommes une société internationale, donc on n'est pas tout seul en France pour le faire. Et nous avons aussi un fort tropisme avec la côte ouest aux États-Unis, où on est très implanté dans la Silicon Valley depuis très longtemps. Donc on a des parcours différents chez nos collaborateurs. On a monté un fonds d'investissement qui s'appelle Spark aussi, aussi dans lequel nous accompagnons au niveau mondial des startups, justement, pour, dans la PropTech en particulier, pour les faire toutes évoluer. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce phénomène autour de nous. On a aujourd'hui à la tête de notre propre service informatique mondial deux grandes figures de la Silicon Valley qui, justement, vont plus loin qu'uniquement l'infrastructure de nos réseaux. Donc c'est vrai que c'est un tropisme particulier. Donc tout le monde ne peut pas le faire. Mais même dans une agence plus petite, même dans une agence uniquement nationale, on peut aller chercher des compétences à l'extérieur, internaliser des compétences, comme tu l'as très bien évoqué, Sophie. Ouais. C'est effectivement de gros investissements et on peut l'absorber quand on est une grosse entreprise. Donc on a le support mondial, le support régional au niveau donc de l'Europe. Et après, dans chacune de nos équipes, on a des profils très différents. On a des collaborateurs qu'on a recrutés qui ne sont pas du tout les collaborateurs qu'on recrutait il y a encore quelques années. Donc on a des community managers, on a des gens qui travaillent donc notre contenu, la façon dont on gère nos leads, parce qu'une fois que le lead est arrivé, c'est bien gentil, mais il faut s'en occuper, bien s'en occuper. Il faut justement savoir combien ça coûte chaque lead, qu'est-ce qu'on en fait, où arbitre-t-on justement nos budgets. Et on est tous aujourd'hui encore plus dans cette situation, donc tout s'analyse. Et on a beaucoup d'analystes. Donc dans le profil, effectivement, on a beaucoup d'analystes, mais quand on est une plus petite entreprise, on peut tout à fait faire appel à des prestataires extérieurs.
Absolument.
Qui ont ces compétences. Mmh. Et c'est même dangereux parfois de les internaliser, parce que parfois, quand on internalise l'intégralité de notre digital, on a des gens qui s'éteignent un petit peu parce qu'ils sont moins dans leur écosystème. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que dans l'immobilier, on a une petite tendance à vouloir garder nos infos parce que c'est nous qui les avons et c'est super bien. C'est plus le monde d'aujourd'hui. Et en plus, ce qu'on apprend du monde du digital, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de transparence, et ça va dans le sens du client. Et ça, c'est essentiel, justement, de pouvoir aujourd'hui afficher quelque chose que je n'aurais peut-être pas affiché il y a 2 ans, parce que c'est notre parcours, et on ne le voit pas comme le donner à des concurrents, mais au contraire, tous ensemble progresser, pour justement le bien du client.
Si on revient sur la page, puisque j'ai interrompu, je voulais juste faire ce commentaire, effectivement, que des grosses boîtes peuvent faire en interne, mais qu'aujourd'hui, vous avez un écosystème et une offre d'outils digitaux qui permet à chacun, que ce soit avec un télescope ou avec une plateforme comme la nôtre, de faire le métier en étant finalement très très bien équipé. Donc on en était, vous disiez, tu disais Marie-Laure, là, donc quantifier la cible, identifier les besoins, visite virtuelle, il y a aussi beaucoup de progrès qui ont été faits.
Oui, tout à fait. Donc nous avons monté chez JLL une expérience client qui s'appelle Next, qui était au départ dédiée au bureau parce qu'on en avait marre de passer trop de temps dans nos voitures, de les abîmer, d'avoir des clients qui visitaient des immeubles qui ne les intéressaient pas. Donc en fait, on a créé une expérience client où les clients viennent chez nous, d'abord on les écoute. Faut pas oublier ça. À force de pousser des informations, c'est bien gentil, mais il faut un petit peu écouter le besoin du client. Donc c'est tout un parcours où d'abord on écoute le client avec des gens physiques.
Le digital, une fois, c'est bien, mais c'est bien de rencontrer les gens.
Ah voilà, bon. Rencontrons les gens,
donné,
exactement.
Ça c'est vraiment important qu'on redise à tous ceux qui nous écoutent. Nous on est convaincus que on n'est pas là pour remplacer. On est là pour travailler avec les agents immobiliers, les commercialisateurs, soit télescope ou nous. Nous on a jamais eu autant de monde au téléphone. Nos clients, là, depuis un an, on passe notre temps à... Voilà. Et on sait bien que... et on a vraiment la conviction
et gagner du temps.
On fait gagner du temps. On donne des outils. On est des facilitateurs. Mais nous, c'est pas notre métier de faire la transaction. Et on pense qu'ensemble, on sera plus fort et que la profession sera plus forte. Parce que ça, c'est quand même drôlement important de dire que tout ça, ça a permis d'élever le niveau moyen d'une profession dont on sait que...
Concentrer de l'immobilier
exactement,
sur l'humain aussi.
Exactement. Et qu'aujourd'hui, l'humain, on se concentre sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la négo, c'est-à-dire l'écoute, etc. La compréhension des relations humaines avec des outils qui sont donnés et ça fonctionne très bien. Donc Next...
Voilà. Et ben Next, c'est un agent augmenté. Next, c'est quelqu'un qui d'abord a écouté son client. Une fois qu'il a écouté, il se sert des outils digitaux pour, en l'occurrence là, faire tout un parcours de visite virtuelle où on travaille avec beaucoup d'open source, avec beaucoup de sources internes. Et donc là, on fait partir le client sur une aventure, une découverte du marché. Et plus on lui donne des informations sur les valeurs, plus on lui donne des informations sur la tension du marché, plus on lui donne des informations, plus il est éclairé et lui-même peut prendre une décision sans après arrêter sa stratégie parce qu'il est perdu et parce qu'il a l'impression qu'on lui montre que ce qu'on a envie de lui montrer ou qu'on l'écoute pas. Donc c'est vraiment très important de dire que c'est une aide à la commercialisation. Donc notre visite virtuelle, nous passons l'ensemble des offres répondant au cahier des charges du client en revue au niveau digital. On va jusqu'à visiter virtuellement les locaux, mais ça maintenant c'est assez démocratisé et on le voit autant sur le résidentiel que sur le bureau. Mais on va plus loin maintenant sur l'activité, l'industriel, on a des drones qui présentent les parcs logistiques aussi, donc on a accompagné cela. Une fois que le client a défini, on va dire, une dizaine d'immeubles, on peut rentrer dans chacun des immeubles et on travaille avec aussi des prestataires de 3D, de visites virtuelles, mais augmentées, où on peut, d'un clin d'œil ou quasiment, pouvoir avoir un état d'esprit loft, bureau cloisonné, etc. Donc il se projette tout de suite et donc il choisit un panier, nous définissons ensemble le panier lui est remis digitalement à l'issue de la visite et la date de rendez-vous est prise pour aller visiter physiquement les locaux, puisque l'immobilier, on reste encore très terrien et on a besoin de sentir les choses. Donc ce n'est qu'une aide pour encore mieux visiter les locaux et pour avoir beaucoup plus d'informations pour le client. On l'écoute plus, du coup il va avoir envie de passer par vous. Et en même temps, l'investisseur aura beaucoup plus d'informations sur la qualité de la visite, sur la façon dont il peut améliorer aussi son immeuble, ses services. Donc on a beaucoup plus de data qui reviennent et qu'on peut transmettre au client. Et puis la finalité, c'est celle qu'on aime tous, c'est d'aller jusqu'au bout et effectivement digitaliser ou complètement la signature du bail. Donc aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de la blockchain et de tout ce qui peut sécuriser ces transactions. On n'y est pas encore complètement, ni le BIM, ni la blockchain en immobilier. On a encore très très en retard, mais ce que je trouve merveilleux, c'est que ce parcours n'est qu'un début pour aller justement vers une aventure où l'humain sera au cœur de la stratégie.
C'est certain. Alors j'ai une petite question sur la visite virtuelle, parce qu'il y a certains détracteurs qui disent finalement c'est pas si bien que ça, parce que quand je fais la visite virtuelle, eh ben, ça m'enlève des chances de faire la vraie visite. C'est quoi ton avis ? Parce qu'effectivement, on peut se dire, non, c'est pas la peine que je visite puisque j'ai déjà visité. Il y en a certains qui sont revenus de ça. Donc, moi, je ne sais pas exactement, mais ça m'intéresserait d'avoir... parce que c'est vrai, il y a du pour et il y a du contre. Donc,
Alors, moi, je suis assez convaincue que plus on donne d'informations, plus on montre des choses, moins on sera déçu par la suite. Faire un super tour de visite où le client dit que tout est génial et fantastique et qu'à la fin, il signe nulle part, ça n'aide personne.
C'est vrai.
Donc, plus on fait de visites virtuelles, mais les visites virtuelles, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas trafiquer les photos. Il ne faut pas montrer un jour de soleil où tout va bien. Transparence. On a décidé, typiquement, de faire des visites virtuelles aussi sur des immeubles en chantier. C'est-à-dire qu'en fait, on veut juste que la caméra soit là pour remplacer une visite qui aurait été une vraie expérience aussi. Visiter un immeuble en chantier, ça ne permet pas tellement de travailler en amont. Donc quand on est dans une salle virtuelle, on a la visite de l'immeuble en chantier. De toute façon, en vrai, ça peut être aussi très désagréable comme expérience. Donc au contraire, on est assis sur un canapé, on voit l'immeuble en chantier et à côté, on a les plans, on a les plans d'aménagement, on peut tout de suite se projeter et je peux dire que ces visites du coup physiques, post-visite virtuelle qui sont évidemment essentielles, permettent justement d'avoir énormément facilité les choses. Et si on a déjà visiter virtuellement, on a absolument besoin de sentir le quartier, de sentir l'immeuble, de s'y sentir bien, parce qu'on parle quand même d'humain, et on disait tout à l'heure, on n'a jamais parlé autant de mètres carrés, on parle aujourd'hui de peut-être un tout petit peu moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés, et ça, il faut le sentir absolument. Donc pour moi, la visite virtuelle aide à la transaction, n'est pas l'inverse. Maintenant, certains clients peuvent ne pas se projeter complètement, et dans ces cas-là, on le comprend assez vite, on lui dit, écoutez, je comprends que la visite virtuelle ne vous convient pas, on va sur place, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais on
c'est
a fait gagner beaucoup de temps.
Supplémentaire. Et en c'est une possibilité. Pour des programmes futurs, c'est une possibilité qui est évidemment formidable. Quoi. Justement, donc, l'ensemble de ces possibilités, de tout ce qui a été créé depuis quelques temps, on peut se dire, est-ce que finalement en 2020, ça a été. On connaît les chiffres du marché. C'est quand même une. La période a été un peu difficile, même si c'est. On espère tous qu'on voit le bout du tunnel. Mais comment les boîtes du digital s'en sont-elles sorties ? Thomas, donc vous et toi avec Télescope, est-ce que cette année 2020, elle est comme. C'est une année classique ? Ou est-ce que, parce que c'était une année un peu de cassure, il s'est passé des choses particulières chez Télescope ? C'est quoi la tendance ?
Alors, peut-être ce qu'il faut, si on revient un petit peu un an en arrière, nous, on était sur une croissance très forte et on double notre chiffre d'affaires tous les ans depuis quelques années. Donc, nous, on était plutôt sur des bonnes vibes juste avant mars 2020. Effectivement, le couvrement.
Couvre-feu, ou un peu plus, confinement.
Confinement, pardon. Et en plus, moi, j'étais malade à l'époque. Ça a été fabuleux. Quelques semaines, un petit peu de stress. En gros, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que déjà, effectivement, nous, comme on s'adresse à énormément de professionnels, déjà, tous les professionnels ne se sont pas arrêtés de travailler pendant cette période-là. Bien au contraire, on a vu qu'au contraire, à partir de, on va dire, avril-mai, il y a eu un rebond assez important de l'activité. Nous, on a repris notre croisière en termes de croissance depuis pas mal de temps déjà. On continue de doubler notre chiffre d'affaires sur l'année, donc on est très 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 content. Là où effectivement, pour rentrer un peu dans le détail, en fait, comme on s'adresse à la fois à des promoteurs, à de l'habitation, mais aussi à des brokers, bah effectivement, on a vu que le marché est quand même bien en train de reprendre. Alors effectivement, oui, je pense qu'il y a encore pas mal de difficultés devant nous. On ne sait pas ce que va nous annoncer Macron ce soir. Mais moi, je suis assez positif parce que je pense qu'on a de la chance d'être sur un secteur qui est quand même assez costaud, sur un secteur voilà, où, effectivement, les investissements sont plutôt sur le long terme. Et les gens ont peut-être cette chance d'avoir peut-être un peu plus de temps, un peu plus de...
Voilà. C'est tellement vrai, c'est que pendant cette période où tout le monde a eu beaucoup de temps, on sait que les foyers, chacun a regardé ses murs et que le marché de l'immobilier résidentiel s'est assez bien porté. Et certains ont dit « Ah, ça va être terrible pour les bureaux, etc. Ça va être avec le télétravail. » Alors, il y a eu une étude qui est sortie de KPMG en août 2020 qui disait 70% des grands patrons des 500 premières entreprises mondiales disaient « Je vais revoir le nombre de mètres carrés de mes bureaux. » Donc, sous le coup de l'émotion, tout le monde s'est dit « Les bureaux, le télétravail, évidemment, va se développer, ça va s'arrêter. » Ben nous, on est très heureux de vous dire que c'est absolument pas vrai et que la même étude qui vient d'être mise à jour montre qu'il y a seulement 17% des grands patrons de boîtes qui disent qu'ils risquent de réduire la surface de leur bureau. Donc cette étude met en avant quelque chose qui pour nous est très important, et je pense que c'est important qu'on le redise à tous, que les bureaux, on aura peut-être un peu moins de mètres carrés, c'est possible, mais il va y avoir un saut qualitatif considérable parce qu'avec ce télétravail, on ira moins, mais quand on ira, on devra y être drôlement bien. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Quoi. Ça, c'est, donc, moi, je le dis et je le redis. Je ne sais pas ce que du côté de Jones Lang, on pense et comment le marché se porte, mais on n'est absolument pas inquiet pour le marché. Alors, l'entrepôt, vous savez, fonctionne très bien. Ouais. La logistique, ça grand boom. Le commerce, ça va revenir, mais la période est particulière. Mais les bureaux, c'est pas fini. Et au contraire, les entreprises, elles crèvent d'envie donc de pouvoir faire revenir leurs salariés au bureau. Elles crèvent d'envie que les gouvernements disent on peut revenir. Et heureusement, ça va être
surtout les gens ont envie de
revenir. Et les gens en crèvent d'envie.
Après, je parle pour nous. Nous, on a été très vite tous en télétravail. On a le choix de l'être le plus possible. Et on essaye effectivement, pour des raisons sanitaires, de ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, on se rend compte que les gens ont envie de se voir, que le télétravail, c'est bien, mais de temps en temps, de se voir le lundi une fois par semaine et effectivement de discuter, bah, ça change un peu la vie, quoi. Ça crée une émulsion qui est sans commune mesure avec, effectivement, le télétravail, même si, attention, ce n'est pas une critique vis-à-vis du télétravail. Nous, on en fait. Et pour le coup, je ne reviendrai pas à revenir tous les jours au bureau. Je suis super content de passer bien deux, sûr. Trois jours de plus chez moi parce que des fois, c'est aussi un plaisir et on peut mieux travailler.
Et on voit qu'il va y avoir probablement un saut qualitatif dans les bureaux aujourd'hui des entreprises qui, en fait, vont réellement remettre en fait, des moyens, remettre les bureaux au cœur de leur stratégie. On y sera moins, mais on va repenser beaucoup de choses, puisque cette envie d'accès à l'extérieur, cette envie d'espace collaboratif, etc., fait qu'il y a du mouvement. Et moi, je dois vous commenter aussi un truc qui nous a beaucoup étonnés, mais c'est que les achats, en tout cas les recherches à l'achat des patrons de PME n'ont pas baissé. Au contraire, en fait, c'est une valeur refuge, l'immobilier, pour les patrons d'entreprise. Dans un univers où on est très incertain sur les marchés financiers, ben, on se dit... l'immobilier, ça ment pas, et c'est tellement vrai pour les entreprises. Donc, la vision de l'avenir chez JLL, elle est aussi positive, Marie-Laure ? Ouais.
Elle est très positive. Elle est très positive parce que, comme vous l'avez dit tous les deux, le bureau, c'est un lien social. C'est là où il se passe plein de choses. On a besoin, justement, d'avoir une activité différente de celle qu'on peut avoir entre ces quatre murs, même s'ils sont un peu grands parfois, ou même si on s'est un peu délocalisé pour pouvoir travailler à la maison. Mais ce qui est certain, c'est que le bureau est complètement repensé. Entre être sur un grand open space tout seul derrière son ordinateur, bah pourquoi ne pas être à la maison ? Ok, donc le bureau, pour y être, on va inventer d'autres choses. Et donc là, on commence à le voir vraiment. Beaucoup plus d'espaces collaboratifs sont mis en place, beaucoup plus d'espaces de créativité, de réflexion globale. Un truc tout bête aussi, on va être amené dans les prochaines années à travailler avec des gens qui, un jour par semaine, peut-être deux jours, ça risque d'être la tendance, seront donc en télétravail. Donc il va falloir continuer à être des présentateurs télé devant ces Teams, ces Zoom ou autre type de plateforme. Donc typiquement, ça a des impacts sur nos aménagements. Typiquement, on ne peut plus être 50 sur un plateau et être tous en communication avec quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il faut repenser l'aménagement, faire plus de bureaux cloisonnés, d'espaces fermés, d'espaces où on peut téléphoner, l'espace où on peut collaborer. Donc en fait, on a un champ des possibles immense qui nous est aujourd'hui ouvert pour réfléchir complètement à la façon dont on appréhende les bureaux. Donc peut-être un peu moins de mètres carrés, et encore, parce c'est que vrai, justement, recloisonner un petit peu, ça prend un petit peu de surface. Maintenant, on a eu aussi un moment de marché où nous avions un taux de vacances, donc un stock disponible très faible et très bas, qui nous empêchait de faire des choses. Beaucoup d'entreprises n'arrivaient plus à déménager parce qu'on n'avait plus de surface disponible. Donc là, ça réamène un petit peu d'air dans l'ensemble de ce marché. Maintenant, ça arrive à un moment où l'ensemble du marché était en plein boom, en reconstruction. Le décret tertiaire sort au mois de septembre, il va y avoir aussi beaucoup de mutations, donc c'est peut-être une opportunité pour justement changer et améliorer la qualité des immeubles de bureaux, de leur aménagement à l'intérieur, mais c'est peut-être justement le moment de se dire, j'ai une vieille épave thermique, si j'en faisais quelque chose qui fasse que demain on puisse justement revenir de bonne façon. Donc tout ça est assez vertueux. On est juste dans un moment d'incertitude. L'incertitude tue le business, c'est là où c'est compliqué. Deuxième élément d'incertitude, uniquement deux entreprises du CAC 40 ont signé leur accord du télétravail. Donc les 38 autres sont en questionnement permanent sur l'emprise immobilière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça coince, ça grince et qu'on ne sait pas vraiment que la demande placée du premier trimestre va pas être géniale. Mais ce qu'on ressent au quotidien, c'est beaucoup de visites, beaucoup d'appétit pour justement les chefs d'entreprise réfléchir à leurs propres collaborateurs et à la façon dont ils vont travailler. Donc le bureau n'est pas mort, ça c'est absolument certain. Il mute comme notre société, comme nos façons de consommer, comme la façon dont on va justement dans les prochaines années imaginer la vie au travail et avec un travail qui sera plus tourné vers les hommes que vers d'autres typologies de stratégies.
Tout à fait. Il mute le bureau et le métier d'agent immobilier mute aussi. Et c'est tant mieux vers plus de professionnalisme, car le digital apporte donc des solutions pour se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les relations humaines, la négociation et le conseil. Et l'ensemble de ces outils mis à la disposition permet à cette profession d'être encore plus valorisée. Et ça, c'est tant mieux parce que c'est quand même une bonne nouvelle et c'est une profession qui en avait un peu besoin. Et l'ensemble de ces outils va peut-être aussi apporter une plus grande fluidité du marché. Et ça, c'est formidable. On doit terminer cette conférence, en tout cas, vous remercier tous, vous dire de nous avoir écoutés, remercier Thomas et Marie-Laure, vous indiquer que vous pouvez écouter en replay et surtout nous contacter, chacun d'entre nous. Si vous souhaitez qu'on poursuive l'échange, on sera excessivement heureux de le faire. Merci beaucoup.